Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous ferons le point sur la situation en Haïti qui se prépare à former un conseil présidentiel de transition après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Témoignage à suivre.
L'Allemagne investit plusieurs milliards d'euros pour tenter de rendre l'industrie plus respectueuse de l'environnement, un important contrat carbone de la différence pour un objectif ambitieux.
Rachida Dati souhaite une gouvernance unique avant la fin de l'année pour l'audiovisuel public. Vous l'entendrez, l'idée n'est pas nouvelle et inquiète les syndicats.
Réclamer la paix, est-ce que ça suffit? Ce sera le billet politique de Jean Lémarie dans un quart d'heure. Hier, les députés ont largement soutenu la stratégie française d'aide à l'Ukraine.
Une transition à haut risque se prépare en Haïti après la démission du Premier ministre Ariel Henry, poussé vers la sortie. Bloqué à Porto Rico, il continue de gérer les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un conseil présidentiel de transition, assure-t-il. La population dans ce pays pauvre des Caraïbes est confrontée à la violence des gangs. Les administrations, des écoles sont fermées, l'accès aux soins compromis, le port et l'aéroport ne fonctionnent plus. Que va-t-il se passer après la démission d'Ariel Henry? Qu'en pensent les Haïtiens? Omar Waman est allé à leur rencontre en République dominicaine, aux portes d'Haïti.
Lorsqu'Ariel Henry a annoncé sa démission, Yannicka, une commerçante, a ressenti une immense joie.
Il n'a rien fait pour nous. Les gens sont en train de mourir et lui, il n'écoute personne. Il n'y a pas de route, pas d'eau, pas d'éclairage, rien à manger. Ariel Henry est un voleur. Les États-Unis doivent le prendre chez eux.
Un sentiment de libération partagé par Jean, arrivé de la ville des Gonaïves et en partance pour les États-Unis.
Ah, je suis très content. Très, 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 très content. Avec Ariel Henry, pas d'espoir. Que réellement... La France, le Canada, les États-Unis prennent conscience de la situation des Haïtiens, vivent maintenant. Le peuple souffre beaucoup, beaucoup.
Donc pour vous, c'est un nouveau départ?
Un nouveau départ, oui.
Un nouveau départ qui doit passer par le déploiement d'une force internationale menée par le Kenya. Samuel, originaire du Cap-Haïtien, n'y est pas opposé, car nécessaire selon lui.
Vu l'état actuel du pays, et récemment, il y a plus de 3000 prisonniers qui ont évadé, qui ont laissé la prison. Je pense que la police nationale d'Haïti n'a pas un effectif assez considérable pour combattre ces gens. Un peu de renfort peut être quelque chose de positif.
La démission d'Ariel Henry n'est qu'une étape. Le plus dur reste à accomplir, mettre au pas les groupes armés qui sèment la terreur à Port-au-Prince.
Et face à la crise, le Kenya suspend l'envoi de policiers en Haïti qui était prévu dans le cadre d'une mission internationale soutenue par l'ONU. Le collectif Haïti de France suit de près la situation et s'inquiète. Il regroupe 65 associations qui travaillent en Haïti pour soutenir les écoles et l'agriculture. Ornella Bracheschi en est la présidente.
Ben, on le vit très mal, hein. On est très très inquiet pour le pays, très inquiet pour les Haïtiens. Parce qu'on a tous les jours des amis qui nous appellent et qui ont subi des choses effroyables. Beaucoup d'écoles sont fermées, ont été obligées de fermer ou ferment régulièrement parce que les quartiers sont pris par les gangs. Depuis un an, surtout, c'est vraiment la descente aux enfers. Et la semaine dernière, alors, c'était vraiment pire que tout. Les gangs ont pris de plus en plus d'espace, de plus en plus de pouvoir. Et ça, c'est vraiment... très très inquiétant pour la population qui maintenant commence à manquer d'eau, de nourriture et aussi avec un système de santé qui est complètement déliquescent, quoi. Il est pratiquement à l'arrêt total, quoi.
Qu'attendez-vous de la communauté internationale et notamment de la France pour trouver une solution à la crise que traverse Haïti?
La France, elle devrait aider beaucoup plus Haïti parce que historiquement, nous sommes quand même deux pays liés et puis la langue officielle en Haïti est le créole et le français. La France devrait certainement aider beaucoup plus au niveau de la formation de la police nationale et l'équipement de cette police parce que elle n'est pas suffisamment formée ni équipée pour combattre les gangs.
Ornella Bracheschi, la présidente du collectif Haïti de France, elle répondait à Stanislas Vazak. La crise en Haïti nécessite une réponse internationale, comme l'Ukraine ou Gaza avait assuré il y a quelques jours un responsable américain. Gaza, où la guerre dure depuis le 7 octobre entre Israël et le Hamas, le nombre d'enfants présumés tués en seulement 4 mois à Gaza est plus élevé que le nombre d'enfants tués en 4 ans dans l'ensemble des des conflits à travers le monde, a affirmé le patron de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et hier, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé l'utilisation de la faim comme arme de guerre, selon lui, à Gaza. Quatre bateaux de l'armée américaine ont quitté hier les États-Unis avec à bord ce qu'il faut pour construire un port temporaire dans l'enclave palestinienne et ainsi acheminer de l'aide humanitaire. Port annoncé par le président Joe Biden la semaine dernière dans son discours au Congrès sur l'état de l'Union. Joe Biden assuré de remporter l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle aux États-Unis, tout comme Donald Trump côté républicain. Les deux hommes ont depuis hier les délégués nécessaires. Une semaine après le Super Tuesday, quatre États étaient en jeu dans les primaires de chacun des deux partis. Les regards se tournent à présent vers le 5 novembre à New York, Loïc Loury.
1215 délégués nécessaires pour Donald Trump, 1968 du côté de Joe Biden, dans un cas comme dans l'autre. Ces seuils critiques ont été franchis hier. Trois mois avant la fin des primaires, les deux candidats ont écrasé la course à l'investiture en attendant les conventions de leur parti cet été et peuvent désormais se concentrer sur leur duel du 5 novembre, une revanche que ne souhaitaient pas près des deux tiers des Américains. Chez les Républicains, Donald Trump s'impose malgré les casseroles judiciaires ou sa défaite de 2020, Joe Biden, lui, paye l'inflation, son grand âge et son soutien à Israël. Autant dire que tous les deux atteignent des sommets d'impopularité et qu'il faudra convaincre les électeurs les plus mécontents d'aller voter. Ce sera la première fois depuis les années 50 que l'Amérique aura droit à une revanche pour la présidentielle, mais les électeurs ne sont pas bien nombreux à s'en réjouir.
Loïc Loury. Nous n'abandonnerons pas, a prévenu cette nuit Léonid Volkov, l'opposant russe de 43 ans, ex-bras droit d'Alexei Navalny, a réagi quelques heures après son agression, près de chez lui à Vilnius, où il vit en exil. Une attaque choquante selon le gouvernement lituanien. Léonid Volkov estime que cette agression est, selon lui, typique du mode opératoire des hommes de main du président russe, Vladimir Poutine. Comment transformer l'industrie pour la rendre plus respectueuse de l'environnement? L'Allemagne vient de présenter un programme pour aider les entreprises à investir dans des installations moins polluantes. Elle est le premier pays de l'Union européenne à lancer ce type de projet. Baptisé Contrat Carbone pour la Différence, il doit aider Berlin à atteindre son objectif ambitieux, la neutralité carbone, en 2045. Alors l'Allemagne investit en conséquence, Sébastien Baer.
Pour la première partie du programme, 4 milliards d'euros seront débloqués avant une deuxième enveloppe de 19 milliards prévue à l'automne. Pour obtenir une subvention, les entreprises devront soumettre leurs projets de transformation à l'État. Sont concernées les industries les plus énergivores, celles par exemple du verre, du métal, du papier ou de l'acier. À elle seule, l'industrie est responsable en Allemagne de 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'État sélectionnera les projets qui offrent le meilleur rapport investissement-bénéfice pour l'environnement. Les contrats seront conclus pour une durée de 15 ans. Ensuite, deux possibilités. Si l'investissement dans de nouvelles installations et le passage à une production neutre pour le climat augmente les coûts de l'entreprise, l'État compensera le manque à gagner. À l'inverse, si le mécanisme est rentable et que l'entreprise économise de l'argent, elle devra rembourser une partie des aides. Voilà donc une incitation sans risque pour les entreprises à investir dans des équipements souvent coûteux. Grâce à ce coup de pouce, l'État espère économiser environ 20 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est l'équivalent de 100 milliards de kilomètres parcourus en voiture thermique, soit l'empreinte carbone annuelle de 8 millions d'automobilistes allemands.
La correspondance à Berlin de Sébastien Baer. L'heure est à l'apaisement entre l'Allemagne et la France. Les dirigeants ont montré leur divergence sur l'Ukraine. La ministre allemande de l'Intérieur est invitée à assister au Conseil des ministres à Paris aujourd'hui. Elle devrait faire à la sortie une déclaration avec son homologue Gérald Darmanin.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Et à propos de l'Ukraine, les députés français ont largement soutenu hier soir la stratégie de Paris pour aider Kiev.
372 voix pour, 99 contre, malgré l'abstention du RN. L'opposition de la France insoumise et des communistes autour du Sénat d'en débattre aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron s'exprimera à ce sujet demain soir à 20h sur TF1 et France 2. L'aide à l'Ukraine devenue un thème clé de la campagne des élections européennes semaine de juin prochain. L'Assemblée nationale, qui, malgré les protestations de la gauche, a par ailleurs ouvert la voie hier soir à la fusion controversée entre l'ASN, gendarme du nucléaire, et l'IRSN, expert technique. Déjà adopté au Sénat, le texte prévoit de créer une nouvelle entité au 1er janvier 2025. Rachida Dati, auditionnée hier au Sénat, veut quant à elle une gouvernance unique pour l'audiovisuel public d'ici la fin de l'année. La ministre de la Culture a dit vouloir s'appuyer sur la proposition de loi adoptée par le Sénat en juin dernier, qui défend l'idée d'une holding de l'audiovisuel public rassemblant France Télévisions et Radio France, dont France Culture fait partie, avec à la clé la sanctuarisation de la part de TVA, qui pallie depuis 2 ans la suppression de la redevance audiovisuelle. Écoutez Rachida Dati hier au Sénat.
Pour nous, c'est effectivement un point de départ. Quel est l'objectif de cette réforme de l'audiovisuel public? C'est pas un mercato, c'est on rassemble des forces, on est plus puissant et on est plus efficace. Si on rassemble des forces et on est plus puissant, plus efficace, il faut une gouvernance unique. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est de pouvoir obtenir une sanctuarisation de la TVA. Je vous dis pas que c'est fait, mais si on va sur la réforme de l'audiovisuel public, si on trouve tous ensemble un terrain d'entente sur cette réforme, je pense qu'on pourra obtenir la sanctuarisation de ce financement.
Rachida Dati, alors que contient exactement cette proposition de loi portée par le sénateur UDI Laurent Lafon? Les précisions d'Hélène Combis.
Le sénateur présente sa proposition de loi comme étant l'unique moyen de préserver la souveraineté audiovisuelle de notre pays. Il ne s'agirait pas d'aller jusqu'à envisager une fusion des sociétés de l'audiovisuel public. Mais ce texte dont souhaite s'inspirer Rachida Dati propose de créer une société holding, baptisée France Média, et composée de 4 filiales. Elle détiendrait la totalité du capital et définirait les orientations stratégiques. Les 4 sociétés en question sont France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. La gouvernance s'articulerait autour d'un PDG nommé pour 5 ans par décret du président de la République sur proposition du conseil d'administration de cette holding et après avis de l'ARCOM et des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce PDG proposerait ensuite des noms de dirigeants au conseil d'administration de chaque filiale qui trancherait. Ce projet de holding est un serpent de mer. En 2016, Nicolas Sarkozy évoquait déjà la création d'une BBC à la française. Et entre 2018 et 2020, Franck Riester, alors ministre de la Culture, avait tenté de porter cette même réforme. Mais le confinement lié à la pandémie de Covid-19 y avait mis un coup d'arrêt. Quant aux conséquences sur les emplois, souvent mises en avant par les syndicats, elles n'ont pas été évoquées hier au Sénat.
Un dossier signé Hélène Combis. Prendre en compte l'intelligence artificielle générative pour gouverner, c'est le thème d'un rapport rédigé par un comité d'experts sur l'IA nommé en septembre dernier. Rapport qui sera remis ce matin au président Emmanuel Macron, mais l'Élysée a déjà communiqué les grandes lignes, Éric Chavroux.
C'est un sujet cœur, expliquent les conseillers de l'Élysée qui vantent la priorité qu'on a fait depuis 2017 Emmanuel Macron. C'est lui qui recevra tout à l'heure ce rapport signé d'une 15aine d'experts, dont l'ancien secrétaire d'État au numérique, désormais consultant, Cédric O, ou Yann Lequin, le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Meta. Après 600 auditions et une consultation publique auprès de 7000 citoyens, le comité rend 25 recommandations plus ou moins concrètes concernant 6 grands domaines et enjeux de l'intelligence artificielle. Avant tout, la formation à l'IA générative, l'enjeu de la puissance de calcul nécessaire pour ces technologies, celui de l'accès aux données indispensables à l'IA, le développement de la recherche publique, la gouvernance mondiale de cette révolution et la problématique du financement de l'innovation. Des clés pour permettre à la France de se positionner comme leader européen, avec aussi un sommet international prévu à la fin de l'année ou l'année prochaine, alors que l'Italie a par exemple annoncé hier un fonds d'1 milliard d'euros à ce propos. D'après l'Élysée, ce comité coprésidé par l'économiste Philippe Aguillon verrait dans l'IA générative un futur moteur de croissance pour la France, avec dès 2030 une hausse de PIB entre 250 milliards et 400 milliards d'euros, quand les emplois directement remplaçables par ces technologies ne représenteraient que 5% de l'ensemble des emplois.
Les précisions d'Éric Chavroux. L'amiral Philippe de Gaulle, fils aîné du général de Gaulle, est mort cette nuit à 102 ans, vient d'annoncer son fils ce matin. Sénateur de Paris entre 1986 et 2004 sous l'étiquette du RPR, puis de l'UMP, il avait mis fin à sa carrière militaire en 1982. Il s'était consacré à la préservation de la mémoire de son père en publiant plusieurs ouvrages sur le général, dont De Gaulle, mon père, un succès d'édition. Météo France prévoit un temps plus calme et ensoleillé aujourd'hui sur le sud et l'est du pays. Ailleurs, le ciel sera gris aujourd'hui. Vigilance orange crue maintenue en Charente-Maritime et en Gironde. Les températures cet après-midi, 12 degrés, pas plus attendus à Belfort, 15 à Rennes et Paris, 18 degrés à Montélimar et Toulouse, jusqu'à 20 degrés à Montpellier.